Eh bien, merci Michel. Et une petite page de pub.
Come fly with me, let's fly away.
xplaynfr.free.fr xplaynfr.free.fr
Come fly with me, let's fly away.
Un problème avec Xplay? Vous ne savez pas piloter? Vous voulez piloter un hélicoptère?
Come fly with me, let's fly away.
xplaynfr.free.fr
Voilà, ça c'est fait. Mais je m'aperçois que Mike Bravo Romeo a été extrêmement bavard sur ce coup-là. Et comme il y a beaucoup de choses à dire et que je ne voudrais surtout pas empiéter sur la tournée des pépettes, Caravel, si tu m'entends, je te salue. Ce soir sera consacré à la première partie de l'émission, celle qui concerne l'ordinateur, ses composants, les types d'images et les scènes utilisées. La seconde partie, concernant les réglages, sera l'objet de l'émission de vendredi prochain. Salut les déçus! Bien, revenons à l'ordinateur. Les deux composants essentiels de votre carte mère sont le CPU et la RAM. Le CPU, c'est le processeur inventé par Intel en 70 qui constitue l'unité centrale de traitement des données. Ce processeur interprète les instructions et traite les données d'un programme. Sa cadence d'exécution est fonction du nombre d'instructions qu'il est capable de traiter en une seconde. Aujourd'hui, on l'exprime en mégaflop, c'est-à-dire en millions d'instructions à virgule flottante, oui parce que les instructions sont à virgule flottante, par seconde. En gigaflop, en milliards d'instructions par seconde. Et bientôt, en pétaflop, en milliers de milliards d'instructions à virgule flottante par seconde. Eh oui, et la vitesse des processeurs s'exprime en mégahertz, ou plutôt aujourd'hui en gigahertz, et bientôt, pourquoi pas, en pétahertz. Si, si, je t'assure. Quant à la mémoire vive, la RAM, c'est une mémoire à accès aléatoire. Ça veut dire que l'on peut accéder à n'importe quelle donnée, n'importe quand, quasi instantanément. Contrairement à celle, par exemple, qui serait enregistrée sur une bande magnétique qu'il faudrait faire défiler jusqu'aux données à lire. Donc, le résultat des calculs du microprocesseur est stocké dans la RAM, qui est elle-même cadencée à une certaine fréquence. Et plus la fréquence de la RAM est élevée, plus le transfert de données en provenance du processeur est volumineux. Ne vous emballez pas, ça c'était avant. Tant qu'il s'agissait de traitement de texte, de calcul comptable, de mise en page simple, CPU et RAM suffisaient amplement. Mais, avec l'apparition des images et des dessins vectoriels, il a fallu apporter de l'aide à l'unité centrale et à sa mémoire, par l'apport d'une carte graphique. Mais avant d'en parler, je voudrais faire une petite parenthèse qui me semble importante concernant les images. Merci, c'est gentil. Il existe deux grands types d'images, les images bitmap et les images vectorielles. Donc, l'image bitmap type, c'est celle des photos en noir et blanc des vieux journaux. Elles sont constituées d'un certain nombre de rangées de même longueur, qui constituent la hauteur de la photo, et chacune de ces rangées affiche une séquence de points noirs ou blancs. Si on regarde cette photo de trop près, on ne peut pas la lire. Il faut prendre un peu de recul pour voir ce qu'elle représente. Donc on peut dire que dans une telle image, chaque point est référencé par trois données. Sa distance par rapport au bord supérieur, sa distance par rapport au bord gauche et sa couleur, noir ou blanc. Donc l'ensemble de l'image est cartographié point par point, ce qui en anglais francisé se dit mapper bit à bit, d'où le nom bitmap. Imaginez une image en couleur de grande définition qui affiche des points avec, en plus, des valeurs de couleur, de teinte, de luminosité, de saturation, etc. ça commence à faire lourd. Et je ne parle que d'une seule image. En vidéo et en PAL, il s'en trouve 25 pour une seconde. Je sais qu'il existe des tas d'algorithmes de compression, mais quand même. Le second type d'image, je dirais plutôt de graphique, c'est le vectoriel, dont le logiciel phare de création est bien entendu Adobe Illustrator. En fait, ces logiciels de dessin vectoriel sont également des visualisateurs, sans lesquels vous ne pourriez rien voir, car le dessin en lui-même n'existe pas. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous le dire. Lorsque vous tracez visuellement un cercle, le logiciel vectoriel le transforme en équation. Par exemple, la surface d'un cercle est déterminée par sa formule pi r au carré. Si l'unité de base est le centimètre et que vous tracez un cercle de 1 cm de rayon, le logiciel va écrire pi 1 au carré et utiliser 4 instructions. Le symbole pi, le multiplicateur, la donnée, 1 et l'exponentielle. Comme c'est du texte, le fichier ne pèse quasi rien puisqu'il ne comporte que 4 symboles. Maintenant, si vous agrandissez ce cercle jusqu'à 1 mètre de rayon, bon, on va dire que vous avez un grand écran. La formule devient pi multiplicateur 1000 exponentielle. En fait, le logiciel a ajouté 3 chiffres, en l'occurrence les 3 zéros, et le fichier n'est guère plus lourd. En gros, le vectoriel décrit comment tracer un truc et non pas la disposition de tous les pixels qui le composent, le truc. Et c'est la raison pour laquelle l'utilisation graphique du vectoriel est énormément moins consommatrice de données. De plus, la figure est aisément déformable puisqu'il suffit de ne modifier que les coordonnées de certains points, qu'on appelle les vertex. Ouais, on en reparlera avec les scènes d'explain. Mais auparavant, revenons à la carte graphique. Donc, l'unité principale de l'ordinateur est sa carte mère, où s'intègrent le processeur et les multiples entrées et sorties, appelées bus, qui devront être lues soit pour être stockées, les entrées, soit pour être affichées, entendues ou transférées, les sorties. Mais avec l'arrivée des images et des graphiques, et surtout des animations, il a fallu apporter de l'aide à cette malheureuse carte mère. On lui a donc adjoint une carte fille qui est, entre autres, la carte graphique. Et à l'instar de la carte mère, elle est également constituée d'un processeur et d'une mémoire vive. Pour le processeur, on parle de GPU, G pour graphique. Et pour la mémoire vive, on parle de VRAM, V pour vidéo. Et cette carte fille, elle est là pour délester l'unité centrale de tous les calculs graphiques, compression, décompression vidéo ou sonore, et prendre en charge la gestion de l'affichage en 2D et en 3D. Dans une animation graphique, ces calculs sont très importants, car le processeur doit calculer les vertex, déterminer les surfaces visibles à un instant et à un angle de vue donné, et cacher les autres. Et je ne vous parle même pas des ombrages. Enfin si, j'y ferai allusion tout à l'heure quand même. Donc, là aussi, plus le processeur graphique sera puissant et plus sa vidéo RAM sera à la fois importante et rapide, plus l'affichage sera fluide. Bon, d'accord. Je vous laisse digérer le temps d'un petit jingle.
La radio qui décolle, la radio qui décolle, la radio qui décolle.
Donc, je résume. Le CPU interprète et calcule tout ce qu'on lui demande et stocke les résultats dans la RAM. Le GPU prend en charge les calculs graphiques et les stocke dans la VRAM. Donc, plus l'affichage d'une animation est riche et complexe, plus le GPU doit être puissant, et plus sa RAM doit être volumineuse et d'une fréquence d'horloge élevée. Venons-en à notre simulateur préféré. Comme tout jeu vidéo ou comme tout simulateur qui utilise des animations graphiques, les calculs se font sur deux priorités, le décor et la machine pilotée par l'utilisateur. Commençons par la machine. À chaque fois que vous manipulez manche ou palonnier, vous sollicitez le processeur. Si votre machine est un planeur, les calculs ne seront pas très importants. En revanche, si c'est un hélico, la demande en ressources sera très grande. Dans les deux cas, les calculs seront moindres si vous volez qu'avoc et sans vent, puisqu'il n'y aura plus à prendre en compte tous les paramètres d'une mauvaise météo, tant au niveau calcul qu'au niveau affichage. Dans les deux cas, la demande de calcul sera également fonction de votre évolution. Moins de calculs en ligne droite et en palier, plus de calculs en virage serré ou en vol acrobatique. N'oubliez pas non plus que les pilotes automatiques demandent aussi un petit surcroît de calcul. Enfin, les cockpits en mode vue 3D sont assez gourmands, surtout si vous utilisez souvent les zooms et les différents angles de vue. La fluidité a un prix, et avec des matériels du type head tracker, la demande s'intensifie encore. Venons-en maintenant au décor, aux fameuses scènes. Les différents continents que vous avez installés représentent leur topographie. Imaginez le relief sous forme filaire, donc constitué d'une multitude de polygones. Dans l'ancien format ENV, toujours compatible, la texture des terrains de ces polygones était constituée d'images au format PNG, qui était ce qu'on faisait de plus léger en termes de compression. Les objets constituant routes, bâtiments et autres étaient généralement au format PNG et même pour certains au format bitmap, qui est un format issu du monde PC. Relativement lourd. Avec l'apparition du DSF, les textures se présentent en plusieurs formats, dont le plus lourd est le PNG. Les autres, plus légers, sont au format DDS ou TER, qui allègent de manière notable l'affichage. C'est le Global Scenery apparu avec le DSF. Toujours dans un souci d'allègement, les aéroports n'affichent que les pistes, les éventuelles aides à la navigation, les papis, balises et autres, et les surfaces aéroportuaires, sans aucun bâtiment. Et j'en viens donc aux scènes personnalisées, à celles que vous pouvez télécharger sur le net, sur de nombreux sites. Vous en trouverez de deux types, celles au format ENV et celles au format DSF. Si votre bécane est peu puissante, les scènes au format ENV sont, à mon sens, à éviter car les plus lourdes, sauf certaines incontournables comme celle de Paris. Bébert, si tu m'entends, je te salue. Si vous prenez la peine de comparer les dossiers d'une scène au format ENV et d'une scène au format DSF, vous verrez que dans celui de la scène au format ENV se trouve trois sous-dossiers. Les textures des objets personnalisés, les objets personnalisés eux-mêmes et les textures des terrains personnalisés. Les scènes les moins récentes utilisent le format BNP comme dans PACA. Les plus récentes utilisent le format PNG comme dans Paris. Dans ce type de scène, le terrain est aussi personnalisé, c'est-à-dire qu'il supplante le terrain par défaut de X-Plane. En revanche, dans les scènes au format DSF, mis à part quelques incontournables textures en PNG, vous ne trouverez que des objets vectoriels au format OBJ. Le terrain est celui par défaut du Global Scenery sur lequel reposent les objets. Les scènes s'en trouvent considérablement allégées, ce qui permet également aux créateurs d'enrichir les dites scènes avec de nombreux bâtiments et de belles animations, comme dans Paris Airfields DSF, Bébert, si tu m'entends toujours, je te resalue, au prétexte qu'ils ont gagné de la place. Et puisque je parle de créateurs de scènes, il faut signaler qu'ils sont de plus en plus nombreux à utiliser les objets mis en commun dans une assez importante bibliothèque qui se nomme Open Scenery X et que je vous encourage à télécharger. La première fois, le téléchargement peut sembler assez long car les fichiers ne sont pas téléchargés globalement mais un par un de manière automatique, rassurez-vous. Mais il y en a quand même à ce jour pour près de 600 mégas. Un dossier X-Open Scenery sera créé automatiquement dans votre dossier X-Plane. Pour en connaître l'adresse de téléchargement, je vous invite à consulter les tutoriaux. Cette bibliothèque évite en fait d'alourdir une scène avec des objets existants dans d'autres scènes et permet à X-Plane de n'avoir pas à retélécharger plusieurs fois le même objet. Cette bibliothèque contribue donc à la fluidité de l'affichage et n'affecte que l'espace de votre disque dur. Je ne peux pas parler des scènes sans évoquer les textures photoréalistes. Et là, je m'adresse aux possesseurs de machines puissantes dotées de gros disques durs. Pour les autres, attendez Noël. Il y a peut-être une chance. Les photoréalistes, ce sont des photos du sol, vues du ciel, plus ou moins fortement compressées, car ça dépend de celui qui effectue le travail. Comme chacune d'elles ne couvre qu'une relativement petite portion de terrain, il en faut donc pas mal pour une surface donnée. Vous trouverez sur le org une partie des États-Unis qui a déjà été convertie. Mais le plus intéressant reste la France, y compris la Corse, qui ont été intégralement convertis par notre ami DTCC, Delta Tango Charlie Charlie, si tu m'entends, je te salue, et disponible sur son site X-Plane Overlay, dont vous trouverez l'adresse dans les tutoriaux. Gros disque dur requis, la totale France et Corse occupe 42 gigas. Inutile de préciser que ça va donner un sacré boulot à la carte graphique. Mais pour voler en VFR, je ne vous dis pas le pied. Un dernier petit mot concernant les scènes, ou plutôt leur préséance. Certains affirment qu'il faut placer les scènes au format ENV après celles au format DSF, en les renommant. Personnellement, moi, je n'ai rien touché et tout fonctionne. Mais bon, ça devait être dit, je l'ai dit. Et voilà, ainsi s'achève la première partie de cette émission. Je vous rappelle que ce que je vous ai dit sur les scènes est consultable sur le site des tutoriaux et vous donne rendez-vous à vendredi prochain. Cette émission a été réalisée avec l'aide de Chouminou, qui n'est pas mort au travail, de Mike Bravo Romeo, qui a pris sur ses nuits blanches, de Pierre Roy, durant un vol transocéanique, et avec les moyens techniques fournis par Webot, qui nous prépare un nouveau forum, Manu G, toujours retiré dans sa campagne azuréenne, où il s'essaie au pilotage automobile en essayant désormais de bien rester au sol, sans oublier la régie sonore, les effets spéciaux, la régie publicitaire, les ingénieurs du son, le montage offline, TeamSpeak, Soundtrack Pro, Plantronic, Sennheiser, votre bécane et vos moyens de réception. Je vous dis bonsoir et à bientôt sur...
La radio qui décolle.
Et pour respecter la tradition, je vous présente un de mes morceaux favoris en vous laissant en compagnie avec Shushila Raman.
Good. résultat.